Nous serions entrés depuis la fin du XXe siècle dans une société qu'on appelle plus ou moins indifféremment société cognitive, société de la connaissance, société apprenante, qui est caractérisée par ce que nous appelons une culture de l'apprenance, c'est-à-dire une invitation sociale permanente qui se fait quelquefois injonction à l'apprentissage tout au long de la vie. On a pu dénoncer dans l'ensemble de ces discours, quelquefois euphoriques et un peu idéalistes, voire angéliques, un chaînon manquant qui est le manque de réflexion sur la nécessité d'une nouvelle attitude des sujets sociaux par rapport à cette nouvelle culture. Et on a choisi de qualifier avec d'autres cette nouvelle attitude d'attitude d'apprenance. Il faut aller plus loin maintenant et se demander comment et pourquoi donc se déclencherait ce désir ou cette capacité d'apprendre chez les sujets du XXIe siècle. Pour ce faire, pour mieux comprendre ce désir et cette capacité d'apprendre et comment tout ça se passe, on a retenu le modèle de la causalité triadique de Bandura, basé sur l'interaction de trois séries de facteurs, facteurs internes ou dispositionnels, facteurs externes ou contextuels et facteurs énactifs, c'est-à-dire le rôle des pratiques dans cette interaction. Va nous servir de cadre pour comprendre un peu mieux comment et pourquoi les adultes apprennent. Première série de facteurs dans ce premier document, les facteurs endogènes que l'on peut ramener à quatre de leurs dimensions. Donc ces facteurs endogènes ou dispositionnels sont issus tout d'abord des caractéristiques d'origine socio-démographique des sujets. Finalement, on apprend en partie du fait de l'influence de son appartenance sociale d'origine, de conditions que l'on pourrait qualifier presque d'archaïques, socio-familiales, de rapport au savoir, de rapport à l'apprentissage, qui sont liées à différentes caractéristiques des milieux sociaux dans lesquels on naît d'abord et ensuite dans lesquels on se développe en tant qu'enfant, puis adolescent, puis jeune adulte. Les questions donc de catégories socio-démographiques vont intervenir évidemment dans la codétermination de ce que l'on devient en tant qu'apprenant adulte. La question du sexe en particulier, qui fait que même si l'accès à la formation des femmes et des hommes aujourd'hui est à peu près équivalente, on sait que pour les premières, les conditions d'organisation de la vie familiale en particulier pèsent plus lourdement que pour les seconds sur le rapport à la formation et à l'apprentissage. En clair, on a moins de temps pour apprendre et s'engager dans un projet dans ce sens-là quand on est chargé d'une partie plus importante des tâches ménagères et familiales. La catégorie socio-professionnelle, bien évidemment, qui amène, y compris dans certains milieux sociaux, à créer ce qu'on a pu appeler les non-publics de la formation, donc des publics que l'on voit jamais ou très rarement en formation et qui semble ne pas se livrer à des activités d'apprentissage et qui évidemment que l'on ne trouvera pas chez les cadres et les dirigeants. Le niveau d'études, bien sûr, qui a une influence, un impact, qui, on le verra, qui n'est pas déterminant nécessairement, mais qui est extrêmement fort sur le rapport à la formation et à l'apprentissage. L'âge aussi, on a eu de nombreuses études pour montrer l'évolution, en particulier chez les populations seniors, de ce rapport à l'apprentissage. La situation familiale, le mode d'habitat, plus on est plus ou moins éloigné des grands centres culturels et de formation, tout ça contribue à nos dispositions, donc à cette première série de facteurs endogènes du rapport à l'apprentissage et donc de l'apprenance. Mais alors, deuxième série de facteurs qui vient non pas en contradiction, mais en complément de la première série, sont les facteurs biographiques. Le fait que finalement nos appartenances sociodémographiques, nos dispositions sociologiques, pourrais-je dire, familiales et sociales, ne sont pas des déterminants absolus de ce rapport à l'apprentissage de l'adulte. On parle dans ce sens de déviance positive, de transgression de la destinée sociale, voire même de transclasse, et plus finement, en examinant les expériences de vie, le rôle de l'empreinte scolaire chez chacun, chacune d'entre nous et les effets de la socialisation primaire, on constate qu'il y a des effets multiples de la variété des expériences biographiques sur le devenir des personnes qui, non pas annulent, mais complètent, voire transgressent ce qui pouvait apparaître en d'autres temps comme un destin social entièrement déterminé par l'origine sociale et familiale. En particulier, la conception que l'on se fait de soi-même en tant qu'apprenant est une résultante non seulement des influences et des origines socio-démographiques, mais également de tout le vécu, toutes les expériences que l'on peut avoir, en particulier à l'école, du rapport au savoir et à l'apprentissage. Donc on passe avec cette deuxième série de facteurs biographiques à une vision en première personne qui traduit l'image d'un sujet social qui est à la fois fortement modelé par ses contextes de vie sociologiques et qui en même temps est une personne radicalement unique du fait de la combinatoire de ses déterminants et de ses marges d'agentivité. Troisième dimension des facteurs endogènes, les dimensions proprement cognitives de ce rapport à l'apprentissage. Donc, finalement, nous apprenons d'une façon qui est à la fois commune à tous les êtres humains, mais en même temps commune à certains groupes auxquels nous appartenons, et puis radicalement idiosyncratique, comme on dit, c'est-à-dire radicalement singulière. C'est tout ça à la fois qui caractérise notre machinerie cognitive et les règles des mécanismes psychologiques qui régissent les apprentissages, en particulier la perception où, à partir de Jérôme Brunner, on a pu démontrer que les personnes, en fonction de différents critères, perçoivent différemment les messages, ce qui veut dire qu'une même leçon, un même cours, une même information sera traduite différemment à travers la perception que chacun, chacune d'entre nous pourra en faire. On a ainsi pu voir que les enfants de classes défavorisées percevaient aux États-Unis une pièce d'un dollar de façon plus grande que les enfants de classes favorisées. C'est même assez marquant de voir que jusqu'à ce processus de base de l'apprentissage, la perception, nous sommes tous différents les uns des autres. Idem pour la question de l'attention et de l'intérêt personnel que l'on peut porter à certains messages ou à certaines situations d'apprentissage, l'attention qui nous permet de faire fonctionner nos apprentissages est avant tout endogène ou personnelle, c'est-à-dire qu'elle est guidée par nos intérêts, nos préoccupations, nos projets. Alors que l'attention exogène, c'est-à-dire la saillance des événements comme un bruit surprenant ou un événement inattendu, sera plus éphémère et aura moins d'effet sur l'apprentissage en profondeur. La mémorisation, c'est toujours le même mécanisme. Les connaissances préalables, ce qu'on appelle en formation les prérequis, sont des déterminants importants de nos apprentissages et pilotent en particulier des préconceptions, des allants de soi, voire même des préjugés que l'on peut avoir avant même qu'un message nous soit adressé, qu'une leçon nous soit présentée ou qu'une information nouvelle nous parvienne. Nous avons déjà un avis sur la question avant même qu'elle nous soit présentée et c'est là le rôle souvent fréquemment négatif des biais cognitifs et en particulier du biais de confirmation qui fait que l'on va chercher, y compris dans les mécanismes d'apprentissage, confirmation de ce que l'on sait déjà au lieu d'aller chercher des informations nouvelles qui contrediraient ce dont on est déjà convaincu. Donc voilà des mécanismes très brièvement rappelés, mécanismes dimension cognitive des facteurs personnels d'apprentissage qui montrent bien à la fois l'unité et la diversité des processus d'apprentissage. Quatrième et dernière dimension de ces facteurs dispositionnels, personnels, endogènes, sont les dimensions très importantes conatives et affectives. Parce que nous sommes des sujets cognitifs, effectivement, nous sommes également des sujets sociologiques, des sujets biographiques, mais nous sommes aussi et peut-être surtout des sujets en devenir, constamment à la recherche et en état d'orientation de nos conduites pour gérer l'avenir. C'est là qu'intervient le rôle de l'agentivité ou du pouvoir d'agir qui nous permettent de piloter nos machineries cognitives et on va retrouver là la question des motivations, des projets qui ont un impact majeure sur l'apprentissage à travers des processus comme la valeur des buts que l'on se fixe, le sentiment d'efficacité personnelle qui fait que l'on a plus ou moins confiance en nos compétences dans des domaines spécifiques, le sentiment d'autodétermination qui fait qu'un adulte va très généralement préférer être volontaire pour agir plutôt qu'on lui impose une contrainte. Et puis du point de vue de la motivation qu'on appelle intrinsèque, c'est le rôle du plaisir, de la curiosité, de l'intérêt que l'on porte à un sujet, une matière, une compétence particulière en soi. Tous ces mécanismes, là encore très brièvement mentionnés, vont agir sur nos dispositions à apprendre ou à ne pas le faire. En conclusion, cette première série de facteurs endogènes, personnels, internes, entrera en interaction dans le cadre d'une causalité triadique avec les contextes d'apprentissage, les contextes de vie, les contextes de travail que l'on traversera, et avec les pratiques qui émergeront dans les différentes situations que l'on vivra. Mais ces facteurs dispositionnels endogènes sont essentiels parce qu'ils vont directement impacter la conception de soi que l'on se fait en tant qu'apprenant, le learning self des anglo-saxons, et également la dimension d'agentivité de nos comportements, c'est-à-dire cette part d'action intentionnelle que l'on peut développer dans la vie. Pour terminer, il faut citer ici la belle phrase de McAdams qui dit « Je suis une personne comme tout le monde, comme certains autres et comme personne. » Et on peut le paraphraser en disant qu'un adulte apprend comme tout le monde, comme certains et comme personne, le tout à la fois.